Nous étudions en ce chapitre le numéro 16 en vue des noces éternelles. Les textes de l'Écriture qui nous sont donnés, trois extraits du livre de l'Apocalypse, peuvent nous sembler difficiles. On se demande, mais pourquoi est-ce qu'on nous a donné ces textes-là pour notre mariage, pour notre préparation au mariage? Alors, peut-être une chose d'abord, rappeler et donner un élément de compréhension du style apocalyptique. Le style apocalyptique, c'est un style qui est utilisé souvent en période de persécution. En période de persécution où donc on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous a oubliés? Est-ce que l'histoire a échappé au contrôle des mains de Dieu pour que tant de tribulations nous arrivent sur le visage? Et l'Apocalypse, qui veut dire révélation, en fait, est comme l'ouverture du livre de l'histoire. Alors les livres à cette époque-là, ce sont des rouleaux, donc on déroule le rouleau, et puis on regarde dans le livre de l'histoire où nous sommes. Et cela permet de comprendre, du coup, que nous sommes bien dans le plan de Dieu. L'histoire n'a pas échappé aux mains de Dieu, les promesses de Dieu ne sont pas oubliées. Et donc, un livre de style apocalyptique va nous parler beaucoup du passé, pour nous dire voilà ce qui s'est passé, du présent, voilà où nous en sommes, et également un peu de l'avenir, les promesses de Dieu qui doivent se réaliser. Et l'on réaffirme, là on est dans la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, la victoire de Dieu, c'est le plan de Dieu réussira. Et dans cette affirmation de la réussite du plan de Dieu, on voit qu'il y a un vocabulaire du mariage qui est extrêmement présent. On nous parle des noces de l'agneau. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus qui livre sa vie en sacrifice. Mais des noces de l'agneau avec son épouse, l'humanité, qui a revêtu sa parure, qui a été sanctifiée dans le baptême, dans sa mort et sa résurrection. Et c'est un temps de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. L'extrait suivant, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Et on voit la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Et la dernière citation, l'esprit et l'épouse disent viens. Celui qui entend qu'ils disent viens, viens s'adresse au Christ dont on attend la venue dans la gloire. Alors, en quoi est-ce que cela a une importance, cette utilisation du vocabulaire du mariage, des noces, dans ce livre de l'Apocalypse? C'est que il vient donc manifester que la réalité du mariage sert à éclairer l'avènement du royaume. Et donc que cette réalité du mariage que vous vous apprêtez à vivre porte un sens en vie éternelle. Là encore, on insiste sur le fait que cette réalité du mariage n'est pas simplement un élément biologique de perpétuation de l'espèce. Il a un sens qui va s'épanouir jusque en la vie éternelle. Ce que vous vivez maintenant nous donne une clé de compréhension de la vie éternelle, de l'alliance que Dieu veut vivre avec toute l'humanité. Ce sont des noces qu'il veut vivre avec l'humanité. Et c'est en voyant justement la qualité de vie des époux chrétiens que l'on pourra saisir, j'allais dire, pressentir la joie à laquelle Dieu nous convie, la joie que Dieu nous promet. Donc soyez heureux de vivre une réalité qui va éclairer la vie éternelle. Il y a une vraie grande et belle dignité de cette vie du mariage. Ce chapitre est aussi l'occasion pour nous de reprendre conscience que nous sommes appelés à passer par la mort jusqu'à la résurrection. Et que donc, devenir époux, devenir épouse, c'est accepter aussi un jour de devenir veuf ou de devenir veuve. Alors on espère bien sûr que cela sera le plus lointain possible comme réalité, mais c'est une réalité que les époux doivent porter dans la mesure où ils s'engagent. C'est aussi ça, cette responsabilité. Nous nous marions pour avancer vers Dieu qui est notre bonheur, mais nous comprenons aussi que ça signifie qu'il y aura un moment où nous nous dirons, eh bien, va, merci de m'avoir accompagné jusque-là sur ce chemin de vie. Va vers ton Père des cieux maintenant, va en paix, va vers ton Père des cieux qui t'aime et qui t'attend. C'est ce que dira, j'allais dire, celui qui reste et celui qui est en train de partir pourra aussi dire « Merci pour m'avoir accompagné pendant tout ce temps de vie. Merci de ton amour tout au long de mon existence. Maintenant, je pars auprès du Christ. » Je pars te préparer une place. » Il y a cette réalité que les époux sont appelés à porter, en comprenant que, comme le Christ nous l'a dit, « Je pars vous préparer une place, là où je suis, vous y serez avec moi. » Et que donc la fin de notre vie sur cette terre n'est pas la fin, l'anéantissement de notre existence. Nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ. Et donc il y a une vraie affirmation, réaffirmation, et nous sommes appelés à nous interroger, est-ce que je partage cette foi fondamentale de l'Église en la résurrection et en la résurrection de la chair? Parce que nous sommes appelés à ressusciter comme le Christ est ressuscité, c'est-à-dire à avoir un corps glorieux comme le sien. Ce n'est pas simplement notre esprit, notre âme qui va subsister. Notre âme, c'est l'âme d'un corps. Et à la fin des temps, notre corps lui-même ressuscitera. Dieu ne veut pas que ce qui a participé, ce qui a connu l'amour, soit perdu. Or, nous avons été faits pour l'amour, corps et âme. Un homme, c'est un corps animé, c'est une âme incarnée. Jésus ressuscité, on peut, vous voyez, donne ses mains à toucher, il mange et il boit avec ses disciples, il leur dira, c'est en Luc 24, « Touchez-moi, palpez-moi, voyez que j'ai de la chair et des os, comme un fantôme n'en a pas. » Et donc nous avons une affirmation de ce corps ressuscité, si le Christ est mort et ressuscité, c'est pour que nous qui sommes marqués par la mort, nous ressuscitions avec lui. Comme lui, avec un corps glorieux. Alors, on voit aussi que ce corps glorieux n'a pas les mêmes propriétés que le corps que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, notre corps aujourd'hui peut souffrir, peut mourir. Le corps glorieux ne souffre plus. Et pourtant, ce corps glorieux porte notre histoire. C'est parfois la question que posent les petits-enfants au catéchisme en disant « Mais quand on ressuscitera, on aura quel âge ?» Alors, est-ce qu'on aura l'âge de quand on sera mort? Alors, pas de chance, si on est mort à 102 ans, tout perclus de rhumatisme, est-ce qu'on va ressusciter avec nos rhumatismes et notre tête de 102 ans? Ou si on est mort à 6 mois, ben on sera un tout petit bébé pour l'éternité? On voit que Jésus ressuscité porte son histoire. Il est capable de montrer ses plaies, des plaies qui ne font plus mourir, et en même temps, vraisemblablement, ces plaies ne sont pas forcément immédiatement apparentes. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui marchent avec lui ne se rendent pas compte de ces plaies. Et ils auraient vu un type tout sanguignolant, ils auraient fait une autre tête. Donc, à la fois, il porte vraiment son histoire, mais cette histoire, on pourrait dire, est maîtrisée. De la même façon, il n'est plus soumis à l'espace et au temps comme nous le sommes. Les apôtres étaient claquemurés dans la salle du Cénacle, et tout d'un coup, il est là au milieu d'eux. Il n'est pas passé à travers le mur ou monté du sol comme une espèce de fantôme. Tout d'un coup, il est là, au milieu d'eux. Voilà. Donc, c'est une matière réelle, mais une matière nouvelle, différente de la matière que nous connaissons. Et pourtant une matière aussi qui peut manger, il mange et il boit avec ses disciples après la résurrection, même s'il n'a plus besoin de cette nourriture. Donc notre foi chrétienne, c'est donc bien aussi l'affirmation que nous sommes appelés à ressusciter avec un corps glorieux comme celui de Jésus, ce qui vient également donner et conférer à nos actes dans la chair que nous accomplissons avec nos corps, une portée en vie éternelle. Vous voyez, si Jésus peut montrer ses plaies qui sont devenues des plaies glorieuses, ça signifie que l'histoire de sa chair a aussi un avenir en vie éternelle. Et donc, la tendresse que les époux vivent dans leur chair a aussi une portée en vie éternelle, une incidence en vie éternelle. Ce que nous faisons avec notre corps n'est pas sans sens, n'est pas sans portée, n'est pas sans avenir, sans retentissement dans la vie éternelle. Et donc, j'allais dire, soyons attentifs à ce que jusque dans notre corps, il y ait cette expression droite, juste et joyeuse, justement, de l'amour. Que l'amour qui grandit dans notre cœur, dans notre intelligence, s'exprimant par nos paroles, soit aussi vécu droitement, justement, généreusement, jusqu'au bout de notre chair, car il y aura un retentissement en vie éternelle. Alors les enfants du catéchisme posent parfois aussi la question, est-ce qu'on se reconnaîtra dans la vie éternelle ? Eh bien, nous avons l'exemple des apparitions de Jésus ressuscité, où l'on voit que les disciples ont du mal à le reconnaître immédiatement. Il doit y avoir un changement dans l'apparence. Et pourtant, quand ils le voient faire des choses qu'il avait faites avec eux avant la passion, ils le reconnaissent. Il rompit le pain pour les disciples d'Emmaüs, ou bien il va montrer ses plaies de la passion. À ce moment-là, on le reconnaît. Donc, l'histoire que nous avons vécue nous permet de reconnaître la personne ressuscitée. Et même s'il y a un changement, de la même façon que quand on vous présente une image de quand vous étiez tout bébé, une photo de quand vous étiez tout bébé, c'est pas sûr qu'on vous reconnaisse immédiatement. Pourtant, c'est la même personne, mais les années passant ont provoqué une modification de cet être qui est pourtant bien le vôtre. Eh bien, le passage par la mort, le passage par la résurrection peut aussi entraîner une modification de notre apparence. Alors, je n'ai pas plus de détails là-dessus, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, et je ne peux pas vous dire, comme je ne peux pas vous dire non plus, l'emploi du temps de la vie éternelle. Ce qu'on sait, c'est que ce sera bien, voilà, ça je peux vous l'affirmer. Donc, je voulais citer cela au sujet de la vie éternelle. Abordons maintenant une autre question qui est posé, c'est est-ce qu'on peut se remarier ? Est-ce qu'on peut se remarier à l'Église quand on est veuf, quand on est veuve ? Alors oui, on a la possibilité de se marier à nouveau à l'Église lorsque l'on est veuf ou lorsque l'on est veuve. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Parce que parfois on se dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va pas en fait manquer à notre fidélité vis-à-vis de notre conjoint défunt? En fait, non. Et pour bien le comprendre, il y a deux choses à noter. Ce qui concerne le lien conjugal, d'une part, et ce qui concerne notre capacité à la communion, d'autre part. Je m'explique. Le lien conjugal, vous vous rappelez, on avait dit que c'était une grâce créée qui était donnée aux époux afin qu'ils puissent vivre une profondeur de communion particulière l'un avec l'autre sur cette terre. Donc c'est une grâce créée qui doit leur permettre une communion toute particulière dans leur vie. Mais cette grâce créée, elle ne peut être vécue quand on est sur cette terre qu'avec une personne à la fois. Et donc, quand je me donne à une personne, eh bien, pour me donner entièrement à elle, je ne peux pas me donner à une autre. Si je me donnais à une autre, ça veut dire que je ne m'étais pas vraiment donné à la première, ou que je ne me donne pas vraiment à la seconde. Et donc, tant que nous sommes unis par la vie à ce moment-là dans le mariage, je ne peux pas me donner à un autre. Mais lorsque mon conjoint vient à décéder, eh bien, le lien conjugal est dissous. Alors, retenez bien aussi, ce qui est dissous, c'est le lien conjugal, cette grâce créée pour vivre cette communion particulière, mais pas notre histoire d'amour. Notre histoire d'amour demeure en vie éternelle. Voilà, j'ai épousé un tel, il est décédé, il n'y a pas un effacement de notre histoire. et en vie éternelle, notre histoire sera présente, notre histoire d'amour n'est pas effacée, elle n'est pas perdue. Simplement, je peux avoir, quand je suis veuve, pour continuer d'avancer sur le chemin de la vie éternelle, besoin de quelqu'un qui unisse sa vie à la mienne pour avancer vers Dieu qui est notre bonheur. Mais il faut bien comprendre que là aussi, j'allais dire humainement, on ne fait pas table rase du passé. Épouser un veuf, épouser une veuve, c'est l'épouser avec l'histoire, en accueillant l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec son conjoint défunt. L'accueillir, ce sera l'accueillir avec l'histoire d'amour qui a été vécue précédemment. Donc ça, c'est vraiment une chose à noter. Oui, on peut se remarier, ce n'est pas obligatoire. On peut juger que non, je n'ai pas le désir de me marier à nouveau. Mais si j'en ai le désir, c'est possible. Alors, essayons de répondre maintenant à la question qui nous taraude parfois, de dire, mais se remarier, est-ce que ce n'est pas manquer de fidélité par rapport au conjoint défunt ? Pour résoudre cette question, il nous faut revenir sur la dimension de capacité à la communion. Donc je disais que sur cette terre, nous n'avons une possibilité de communion pleine qu'avec un seul. Quand nous nous sommes donnés à celui-ci, quand nous avons reçu celle-là, eh bien, si nous avons tout donné, nous n'avons pas de possibilité de donner à un autre. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir deux mariages concomitants. En revanche, au ciel, notre capacité à la communion va être surélevée. C'est-à-dire que nous participerons à la capacité de Dieu d'être pleinement en communion avec chacun. Je reviens là aussi sur une petite expérience que font les enfants du catéchisme. Parfois, les enfants du catéchisme se demandent si, mais quand on prie tous en même temps, est-ce que ça ne gêne pas Dieu pour nous écouter ? Ah, c'est le petit enfant qui dit à l'autre, non, ne prie pas maintenant, c'est moi qui prie, sinon le Seigneur m'entend moins bien. Non, ben justement, c'est une capacité particulière de Dieu de pouvoir être présent entièrement à chacun. Dieu n'est pas gêné parce qu'on le prie à 10, à 20, à 10 millions. Il est là, présent pour chacun. Il n'est pas moins présent à l'un parce qu'il est présent aussi à d'autres. Et nous participerons à cette capacité de communion. Notre capacité à la communion sera surélevée. Parce que nous allons entrer dans une capacité, on pourrait dire, spirituelle de la communion. Une réalité spirituelle se partage sans être réduite. C'est l'inverse du gâteau. Le gâteau, plus vous faites de parts, plus elles sont petites. Une information spirituelle, alors je vais prendre un exemple stupide, mais si je vous partage l'heure qu'il est maintenant, eh bien, je peux le partager à l'un, à deux, à trois, à quatre, à huit personnes en même temps. L'information reste pleine et entière pour chacun. Elle n'a pas diminué au fur et à mesure que je la partageais. Voilà, une réalité spirituelle a cette capacité de se donner à chacun sans être diminuée. Or, dans tout notre être au ciel, nous allons entrer dans une réalité spirituelle nouvelle. Et là, quand je dis spirituelle, c'est pas spirituel au sens d'intellectuel seulement, mais de réalité saisie par l'Esprit Saint. Le corps ressuscité est saisi par l'Esprit Saint pour entrer dans la vie de Dieu, pour participer à la vie éternelle de Dieu. Et cette action de l'Esprit Saint sur le corps ressuscité lui permet aussi d'entrer, de vivre une communion pleine et entière qui, elle aussi, est surélevée. Alors, je ne peux pas vous dire matériellement comment cela se passera au ciel, mais je peux prendre un exemple qui nous est donné sur cette terre, qui nous évoque cette réalité de l'élévation du corps à une capacité de communion supérieure à celle que nous connaissons maintenant. C'est la réalité de l'Eucharistie qui nous permet de le comprendre. Dans l'Eucharistie, dans la messe, quand nous allons communier, le prêtre va nous présenter l'hostie consacrée va nous dire le corps du Christ. Ce qui signifie que chacun de ceux qui communient reçoit le corps du Christ. Voilà, nous recevons la vie du Christ par son corps eucharistique, mais bien son corps. On n'a pas dit « recevez simplement l'esprit du Christ », non, c'est le corps du Christ. On insiste sur cette réalité du corps qui se donne et que nous recevons d'ailleurs par notre corps. Et donc à chacun on dit « le corps du Christ », on ne dit pas à l'un « reçois l'oreille, toi le bras gauche, toi le pied droit ». On n'est pas en train de dépecer le Christ. Chacun reçoit le corps de Jésus tout entier. Eh bien, c'est une annonce dans la réalité sacramentelle de cette réalité de la vie éternelle, d'une communion, d'une capacité surélevée à la communion qui sera connue sur cette terre. Voilà. La capacité d'attention de Dieu nous est communiquée, la capacité de communion jusque dans notre chair est elle aussi surélevée. Alors, quelle modalité ça prendra ? Je ne peux pas vous le décrire, mais je peux décrire, en revanche, que notre capacité à la communion sera surélevée. C'est du coup pour cela que, parce que au ciel, nous entrerons en communion pas simplement avec Dieu, mais avec tous ceux qui sont en communion avec Dieu, tous ceux qui sont unis au Christ, parce que du coup notre capacité à la communion sera unie à tous les saints, eh bien, on comprend alors que ce n'est pas manquer de fidélité à notre conjoint défunt que d'épouser après son décès une autre personne, puisque au ciel, notre capacité à la communion sera surélevée. Et donc, au ciel, en je dirais, retrouvant mon premier époux, je ne manquerai de rien pour me donner totalement à lui dans la communion divine. Et de la même façon que je ne retirerai rien au second époux que j'aurai, que je ne retirerai à rien non plus à ceux qui entreront en communion avec moi par le Christ et qui auront à me recevoir avec mon histoire, l'histoire que j'aurai eue sur cette terre, l'histoire de mariage que j'aurais eu avec telle personne, et peut-être si je me suis remarié avec telle autre personne aussi. Voilà, nous nous donnerons au ciel dans la communion avec l'histoire que nous avons vécue, mais notre capacité à la communion sera surélevée par la grâce de l'Esprit-Saint qui nous donnera justement de posséder cette capacité de communion de Dieu, de vivre cette capacité de communion de Dieu. Je voudrais, pour terminer cet enregistrement, évoquer le sens que peut avoir la vie d'un veuf ou d'une veuve, donc après le décès de son conjoint. Parce qu'on peut se dire, mais mon projet de vie, c'était de vivre avec toi, et voilà que je me retrouve sans toi, je l'ai pas, d'une certaine manière, je l'ai pas choisi, c'était pas ce que je voulais vivre avec toi. Je le rappelle, si nous nous marions, c'est aussi que nous acceptons d'être veuf ou veuve un jour, donc c'est aussi un choix. Mais ma vie sans mon conjoint n'a pas perdu son sens. À la fois parce que, comme être humain, je me rappelle, et c'est la vie consacrée qui me le rappelle, que je suis fait pour Dieu, je peux vivre une consécration à Dieu qui est notre bonheur, mais aussi parce que je peux porter un témoignage qui sera très beau et très profond, notamment pour les jeunes, pour ceux qui se préparent ou qui se prépareront un jour au mariage. Ce n'est pas rien d'entendre un veuf, de dire, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que mon conjoint est défunt et je l'aime encore. D'avoir le témoignage justement que cet amour qui les unissait ne s'est pas évanoui avec le temps, et quelque chose qui est plein d'espérance. Quand bien même ils peuvent comprendre justement cette douleur qui persiste, cette douleur qui persiste est un encouragement à vivre, à oser vivre l'amour qu'ils veulent construire ensemble. Vous voyez, la perpétuation de cet amour dans le cœur du veuf et le témoignage de cet amour dans le cœur du veuf est un élément d'espérance pour ceux qui veulent s'engager dans cette vie, que ce qu'ils vont toucher, ce qu'ils vont atteindre est une réalité qui est haute, une réalité qui est profonde. C'est pas comme la louve, hein, vous savez, dans le monde animal. Lorsque son louveteau est mort, elle va le toucher 2-3 fois de la patte, le renifler, et puis s'il ne bouge plus, elle va passer à autre chose. Il n'en va pas de même dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui a aimé, qui a vécu l'amour, est marqué. Il y a une place qui s'est faite, une place qui est appelée à être remplie, accomplie dans la vie éternelle. Voilà, que ce texte, que ce chapitre en vue des noces éternelles nous aide à bien comprendre donc cette grandeur, cette dignité du mariage dont le vocabulaire sert à décrire cette vie éternelle, qui nous aide à reprendre possession de notre vocation à la résurrection, de redécouvrir peut-être la profondeur de la communion que nous allons goûter dans le mariage et qui sera surélevée en vie éternelle pour pouvoir être ces témoins de l'alliance que Dieu veut vivre avec son peuple.